Recoins de la Bible, un podcast pour nous immerger dans les Écritures. Aujourd'hui, nous allons aborder quelques aspects de l'enseignement du Seigneur envers ses disciples. La qualité d'un enseignement dépend de la matière elle-même et aussi des qualités de celui qui enseigne. Certains enseignants sont appréciés parce qu'ils rendent leur savoir vivant et concret, et on en comprend tout de suite l'utilité et la valeur. À l'école, par exemple, certains élèves n'aiment pas certaines matières et ils sont démotivés parce que, soit ils ne comprennent pas l'utilité du cours, soit ils n'aiment pas le prof pour une raison ou l'autre. Bonjour Étienne.
Bonjour Hervé.
Tout d'abord, une question s'impose. Comment devient-on un disciple, dans le sens un apprenti du Seigneur?
Alors nous ouvrons les évangiles pour découvrir que le Seigneur Jésus appelle quelques hommes à le suivre. Et chacun a quitté la fonction qu'il occupait pour suivre le Seigneur pendant ces années où ils ont marché ensemble. Mais après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, ils ont saisi pleinement cet enseignement que le Seigneur leur a transmis et ils ont compris qu'il fallait passer, bien sûr, par ce moment où l'on accepte dans son cœur ce que le Seigneur Jésus a réalisé. Il faut donc être sauvé, un racheté du Seigneur Jésus, pour commencer à marcher en le suivant, donc à être pratiquement ce disciple.
Donc avant d'accepter le Seigneur Jésus pour Seigneur, il faut l'avoir accepté pour son sauveur personnel, pour celui qui est mort sur la croix, qui a tout donné pour nous acquérir. Ensuite, nous lui appartenons, il est notre Seigneur, il a cette autorité sur notre vie, mais il n'a pas seulement cette autorité intrinsèque, je vais dire, ou cette autorité de maître absolu, il est celui qui enseigne.
Voilà, et on voit à plusieurs reprises dans la parole qu'il enseignait avec autorité. Donc, rien que par le fait de donner cet enseignement, de parler de son Père, de parler de cet amour, de cette miséricorde, de ces miracles qu'il réalisait, il y avait donc ce qu'il faisait, mais ce qu'il annonçait, la parole qui sortait de sa bouche, eh bien, est arrivée à convaincre ceux qui écoutaient.
Alors le Seigneur, en effet, avait une autorité dans son enseignement. On en lit quelque chose, par exemple, dans l'Évangile selon Marc, au premier chapitre déjà, et au verset 21 et 22. « Et ils entrent dans Capernaum, et étant entrés aussitôt le jour du sabbat dans la synagogue, il enseignait, donc le Seigneur Jésus enseignait. » Verset 22. « Et ils s'étonnaient de sa doctrine, car il les enseignait ayant autorité, et non pas comme les scribes. » Donc nous venons de dire que le Seigneur enseignait avec autorité, nous venons de le lire, mais il ne s'agit pas d'une autorité sèche, comme un scribe pourrait l'avoir. Un scribe, c'est quelqu'un qui écrit des textes par cœur, systématiquement, de manière mécanique, et qui pourrait peut-être vouloir imposer une certaine autorité parce qu'il a une connaissance intellectuelle. Mais là, il s'agit d'une autre sorte d'autorité.
Oui, c'est une autorité qui vient transpercer le cœur, qui vient donner quelque chose à la personne. Ce n'est pas simplement des ordres d'exécuter. C'est d'abord le cœur de la personne qui écoute, qui est touché par la parole du Seigneur Jésus.
Dans cette autorité, en effet, il y a cette autorité du Seigneur, il y a cet amour, il y a cette grâce qui est sous-jacente. Et d'ailleurs, ce verset fait suite à un passage dans l'Évangile selon Marc, au premier chapitre, où le Seigneur, lorsqu'il marchait le long de la mer, il a vu ces hommes qu'il a appelés. Et la voix du Seigneur il leur a dit « Suis-moi ». Et aussitôt, ayant tout quitté, ils le suivirent. On peut donc déjà imaginer l'autorité de la voix du Seigneur Jésus, parce que le Seigneur Jésus parle avec son cœur. « Toi, suis-moi, viens, je te ferai pêcheur d'hommes. Je te ferai quelque chose d'utile pour Dieu. » Et donc, ces pêcheurs peut-être encore jeunes, mais déjà qui ont une certaine expérience de leur métier, eh bien, le Seigneur va leur apprendre à faire quelque chose d'autre. Je te ferai quelque chose qui est utile pour moi. C'est-à-dire, je t'enseignerai, je te formerai.
Et donc, on voit ici d'abord dans les évangiles que le Seigneur en appelle 12 pour le suivre, mais on sait par la lecture des évangiles que bien d'autres personnes, des hommes et des femmes, ont pu alors, entendant l'enseignement du Seigneur Jésus, le suivre aussi dans le chemin et devenir donc ses disciples. On peut s'arrêter sur Nicodème dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens dont le nom était Nicodème, qui était un chef des Juifs. Celui-ci vint à lui de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus répondit et lui dit, « en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc voilà, le Seigneur lui apporte une autre manière, alors qu'il était un chef des Juifs, qu'il était déjà instruit dans la loi. Et il va lui apporter une nouvelle manière de lire le rouleau du livre, l'Ancien Testament, où le Seigneur est annoncé de nombreuses fois, et de lui montrer qu'il y a un nouveau chemin, un chemin différent de ce qui a existé jusque-là, pour entrer dans cet enseignement que le Seigneur va prodiguer et qui fait partie justement de cette expression « le royaume de Dieu ».
Nicodème avait une connaissance approfondie des Écritures, en tout cas de l'Ancien Testament, puisqu'il était chef parmi les Juifs. Et pourtant, quand il entend les paroles du Seigneur Jésus, qui sont des paroles simples, qui fait référence à quelque chose de très concret, il faut naître de nouveau, eh bien, Nicodème s'étonne. Et on l'a lu tout à l'heure dans Marc aussi, il enseignait avec autorité et les gens sont étonnés. Ils sont étonnés comment le Seigneur Jésus enseigne avec autorité, mais pas une autorité habituelle, pas une autorité d'homme. Et on pourrait dire aussi avec une simplicité qui est déconcertante, pour, en tout cas pour Nicodème, je lui dis mais comment est-ce possible ? Eh bien, le Seigneur prend une image de la vie de tous les jours, il dit la naissance, et il dit, ben voilà, au point de vue spirituel, c'est pareil. Il faut voir les choses comme Dieu les voit.
Il faut d'abord être un petit enfant. Et un petit enfant, c'est celui qui découvre la vie et qui regarde ses parents, qui entend parler et qui commence par mettre en pratique, justement, ces choses qu'il voit et qu'il entend.
Oui, d'ailleurs, le Seigneur Jésus, en Matthieu 11, au verset 25, en ce temps-là, il est écrit, « Jésus répondit et dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits-enfants. » Et au verset 29, il est dit « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur. » Donc le Seigneur, il enseigne avec autorité et en même temps, il est humble de cœur, il est débonnaire et humble de cœur. C'est une combinaison que nous ne connaissons pas selon la chair, mais c'est la beauté et la perfection morale du Seigneur Jésus. Et il loue le Père, que ces choses sont accessibles aux petits-enfants, que l'enseignement divin qui est donné par le Seigneur Jésus est accessible pour les plus jeunes, les plus petits. On pourrait dire aussi simplement ceux qui viennent à lui ou qui écoutent ses paroles avec simplicité de cœur. Et les enseignements élaborés et l'érudition du monde n'est pas utile pour bien comprendre ce que le Seigneur veut nous faire comprendre.
En effet, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, le Seigneur peut On peut lire, d'abord. En voyant les foules, il monta sur la montagne, et lorsqu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Ayant ouvert la bouche, il les enseignait, disant « Bienheureux les pauvres en esprit, car c'est à eux que le royaume des cieux. » Alors on peut être surpris par cette expression « les pauvres en esprit », mais elle vient justement en contraste de ce qu'on a lu, les sages et les intelligents. Ce sont tous ces hommes et ces femmes dans ce monde qui ont sans doute une intelligence humaine très développée et qui leur permet d'imaginer, de mettre en place beaucoup de choses qui nous étonnent. Mais ce n'est pas à eux que le Seigneur veut s'adresser. Il veut s'adresser à ceux qui acceptent son enseignement. Et donc il ne peut pas y avoir de raisonnement humain dans cette appréciation, cette connaissance de ce que le Seigneur Jésus veut nous transmettre.
Ce que le Seigneur Jésus est venu nous transmettre, c'est ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on analyse par la philosophie, la logique. C'est quelque chose que l'on reçoit de la part de Dieu. Il n'est pas possible d'analyser ou de comprendre Dieu qui il est vraiment. Il faut l'accepter par la foi. Et le Seigneur Jésus est véritablement venu dans le monde pour révéler le Père. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. C'est ça l'enseignement que le Seigneur Jésus est venu nous donner. Ce ne sont pas des philosophies ou des théories humaines, c'est véritablement la réalité du cœur de Dieu.
Et toutes ces choses, nous la trouvons dans la parole de Dieu, la Bible, qui est aujourd'hui disponible. Et on peut voir alors, donc, c'est bien la parole de Dieu. C'est-à-dire, dans la parole, il y a cette notion de verbe, d'action. Et donc, la parole agit dans les cœurs de chacun. Et on voit dans le livre des Actes, au chapitre 6 et au verset 7, « Et la parole de Dieu croissait, et le nombre des disciples se multipliait beaucoup dans Jérusalem. » Voilà donc cet enseignement, la parole de Dieu, qui est donnée et qui vient agir sur toutes ces personnes qui étaient là et qui pouvaient ainsi maintenant devenir des disciples du Seigneur Jésus.
Et quand le Seigneur Jésus dit que ces choses sont révélées non pas aux sages et aux intelligents, mais aux petits-enfants, c'est ceux qui sont tout simplement, qui restent dans la simplicité devant la parole de Dieu. Cette parole qui est la vérité, cette parole qu'on accepte par la foi, eh bien, le Seigneur utilise des images compréhensibles. Il utilise des paraboles, il utilise des choses de la vie de tous les jours pour enseigner les foules même, des choses simples et souvent très concrètes que nous pouvons comprendre, même quand nous sommes jeunes encore, ou enfants. Il y a déjà beaucoup de choses qu'un enfant peut comprendre des paroles du Seigneur dans l'Évangile, tout simplement. Et aussi, cet enseignement, il est donné de manière simple de la part du Seigneur parce que il faut aussi comprendre facilement comment le mettre en pratique. Le Seigneur ne nous enseigne pas pour augmenter notre connaissance intellectuelle, mais pour nous faire comprendre ce que nous devons faire pour lui plaire sur la terre. Donc l'enseignement qui est donné de la part du Seigneur Jésus vient de Dieu. C'est ce que nous lisons en Jean chapitre 8, par exemple. Lorsque les Juifs lui disent « Mais toi, qui es-tu ?» Jésus leur dit « Absolument ce qu'aussi je vous dis. » À la note, il est dit dans le principe de l'universalité de ce que je suis, sa parole, son langage, le présenter lui-même, étant la vérité. Donc il est venu apporter la vérité, et il est la vérité. Ensuite, il dit plus loin dans les versets qui suivent, « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et les choses que j'ai ouïes de lui, moi, je les dis au monde. » Donc le Seigneur parle de la part du Père. Il nous enseigne ce qui vient du Père. Ils ne connurent pas qu'il leur parlait du Père. Si nous avons les pensées axés sur les choses du monde, nous n'allons pas comprendre l'enseignement du Seigneur Jésus. Et si nous ne comprenons pas l'enseignement du Seigneur Jésus, nous ne serons pas approchés du cœur de Dieu. Puisque le Seigneur dit lui-même, en Jean 14, verset 6, « Moi je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il dit aussi, « Celui qui m'a connu a connu le Père. »
Et donc la parole de Dieu est aussi appelée la vérité. Dans toutes les choses qui sont écrites entre nos mains aujourd'hui, dans la Bible, c'est la vérité. Dans ce monde, on remet toujours tout en question, mais là, nous sommes sur la parole de Dieu qui est immuable. Elle ne change pas depuis qu'elle a été écrite et elle nous apporte vraiment les choses qui sont vraies. Dans ces trois expressions, le chemin, la vérité et la vie, le chemin, c'est venir rencontrer le Seigneur Jésus, c'est accepter ce qu'il nous enseigne, et il nous montre le chemin vers la vie éternelle, non pas une fin sur cette terre où il n'y a plus rien après, comme disent les hommes, mais un avenir merveilleux, un chemin qui va, qui se prolonge éternellement. Et puis, il y a la vérité. Donc, tout ce qui est dit dans la parole est vrai. Et on peut parfois, sans doute, trouver la parole forte, parce qu'elle nous dit ce que nous sommes, parce qu'elle met en évidence les choses qu'on ne devrait pas faire. Elle est la vérité. Mais aussi, alors, c'est pas justement quelque chose de sec, parce qu'elle est la vie. Et donc, elle vient nous donner justement cette nouvelle vie qui nous permet alors de marcher en suivant le Seigneur dans la paix, dans la joie et dans cette espérance d'être un jour avec le Seigneur dans le ciel.
Et c'est important de souligner que la parole de Dieu, eh bien, elle peut choquer parce qu'elle choquera forcément notre chair. Et on trouve cet exemple dans Jean chapitre 6, où le Seigneur enseigne, donne un enseignement, il y a beaucoup de disciples présents, et puis au verset 60, il est écrit « Plusieurs donc de ses disciples ayant entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'ouïr ?» Alors notons au passage que le Seigneur Jésus a toujours enseigné la vérité. Il n'a jamais changé son discours pour plaire aux hommes. Ça c'est très important. Il est la vérité. Il enseigne la parole de Dieu, il enseigne la vérité. Et donc, voilà, la vérité, eh bien, pour certaines personnes, elle est dure. On ne peut pas l'entendre. Qui peut l'ouïr? Et à partir de ce moment-là, elle est dit que plusieurs de ses disciples ont arrêté de le suivre parce que l'enseignement ne leur convenait pas. Mais le Seigneur dit bien dans le chapitre que c'est parce qu'ils considèrent ce que le Seigneur dit par la chair et non pas par l'esprit. Mais il y a cette belle réponse de Pierre, un peu plus loin dans le chapitre, puisque le Seigneur alors se tourne vers les douze et ils disent « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?» Après avoir entendu cet enseignement, est-ce que vous désirez continuer dans ce chemin à ma suite ou pas ? Et puis Pierre répond de manière magnifique au verset 68, Pierre lui répondit « Seigneur, auprès de qui nous en irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint de Dieu. » Pierre a compris que les paroles de la vie, elles viennent du Seigneur Jésus. Et il le croit et il sait. Et là, il est maintenant convaincu que cet enseignement, c'est à propos du Seigneur Jésus, à propos d'une personne. Et ce n'est pas une théorie, ce n'est pas des règles à suivre, c'est une personne. Auprès de qui nous en irions-nous? Il est donc le chemin, c'est à lui qu'il faut aller, c'est avec lui qu'il faut marcher. Ça veut dire aussi, cet aspect du chemin, que la parole de Dieu, elle est très pratique, c'est pour le chemin, pour trouver le chemin et pour ensuite avancer dans le chemin. C'est la vérité, c'est un enseignement véritable, véridique, invariable, qui ne change pas, c'est établi, et c'est la vie. C'est un enseignement qui apporte la vie éternelle, premièrement, mais aussi qui apporte la vie dans le chemin de la foi, c'est-à-dire la relation avec Jésus, Christ et ma vie. Et le Seigneur Jésus, si nous revenons à ce passage de Matthieu 11, verset 29, « Apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur. » Voilà notre enseignant divin, c'est le Seigneur Jésus. Il parle avec autorité, il parle de choses vraies qui nous donnent la vie. Il est débonnaire et humble de cœur. Il parle de cœur. C'est un maître qui enseigne avec amour, avec grâce, pour notre bien.
Et il est débonnaire, donc il se donne lui-même dans son enseignement. Ce n'est pas simplement une présentation générale, c'est vraiment un modèle, c'est une vie lui-même qui se montre et qui donne, donc qui apporte à tous ceux qui suivent quelque chose.
Oui, il s'implique dans l'enseignement qu'il donne. Il ne donne pas un message ex cathedra, à distance, faites ceci, faites cela. Non, non, il dit, regardez, voyez, écoutez, et vous verrez comment il faut faire.
Peut-être une remarque encore qui est vraie au temps du Seigneur, qui était vraie d'ailleurs dans l'Ancien Testament concernant ceux qui pouvaient avoir une révélation dans le peuple d'Israël par les prophètes, mais qui est vrai aujourd'hui aussi, c'est notre attitude aussi vis-à-vis de ce que nous pouvons recevoir par la lecture, mais aussi par l'enseignement qui peut être donné. Et on peut voir dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 29, une manière différente de recevoir la parole. Il faut vraiment la recevoir dans son cœur. Et c'est le cœur du Seigneur qui nous l'apporte. Et ici, le Seigneur vient dire, Ésaïe 29, verset 13, « Et le Seigneur dit, « Parce que ce peuple s'approche de moi, de sa bouche, et qu'ils m'honorent de leurs lèvres, et que leur cœur est éloigné de moi, et que leur crainte de moi est un commandement d'homme enseigné. C'est pourquoi, voici, j'agirai encore merveilleusement et je ferai une œuvre merveilleuse envers ce peuple. La sagesse des sages périra et l'intelligence de ses intelligents se cachera. » Donc il y avait une attitude de recevoir un enseignement, mais de ne pas le pratiquer, de ne pas le comprendre. Un enseignement, une connaissance, comme on apprend beaucoup de choses quand on va à l'école. Mais ce peuple n'était pas touché. Et donc on voit que le Seigneur peut agir d'une façon merveilleuse. Et c'est donc celui qui devient un vrai disciple du Seigneur, qui le suit jusqu'au bout du chemin, c'est une action merveilleuse de la grâce de Dieu, de ce que le Seigneur Jésus est pour chacun d'entre nous. Il agit merveilleusement, une œuvre merveilleuse, et alors cette sagesse du monde, cette intelligence, sans doute qui peut plaire, mais qui dépasse peut-être même ce que la personne peut comprendre, qui vit dans sa vie de façon aussi simple, humble, eh bien, elle se transforme par la parole de Dieu en quelque chose de vivant. Et donc, cette attitude, ce sont ceux de ses disciples qui ont arrêté dans le chemin. Ils ont dit, oh, ben voilà, c'est trop dur, on ne peut pas comprendre ces choses, on ne peut pas les accepter. Ça ne correspond pas à ce qui est placé par l'homme devant nos yeux. Et là, eh bien, c'est une parole tout à fait différente, une parole simple, de grâce, d'amour, que le Seigneur Jésus nous donne. Et aujourd'hui, justement, à travers toute la Bible, au temps du Seigneur, il y avait ce que le Seigneur appelle lui-même le rouleau du livre. Le livre d'Ésaïe, par exemple. Aujourd'hui, nous avons aussi les quatre évangiles qui nous montrent justement ce que le Seigneur a fait et ce que le Seigneur a enseigné. Et puis nous en avons l'explication dans toutes les épîtres qui suivent pour pouvoir mettre en pratique toutes ces choses. Et donc là, il y a encore une personne qui vient justement nous faire comprendre toutes ces choses. On a parlé de Dieu, on a parlé du Seigneur Jésus, et donc il y a une troisième personne qui intervient.
C'est le Saint-Esprit. Mmh. Tout à fait. Le Saint-Esprit qui nous enseigne les choses concernant le Seigneur. Le Seigneur l'avait dit, « Je ne vous laisserai pas seul, le Père vous enverra un autre consolateur, il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. » Et le Saint-Esprit nous enseigne quant aux gloires du Seigneur Jésus, quant à sa personne. C'est touchant de voir par les Écritures, dans les Évangiles par exemple, et par le Saint-Esprit qui nous ouvre les Écritures, de voir comment le Seigneur Jésus a enseigné de façon merveilleuse. On a lu dans Ésaïe, « Je ferai une chose merveilleuse ». Alors, tout ce que Dieu fait est merveilleux. Alors, le cœur du peuple n'avait pas été touché par les enseignements de l'Ancien Testament. Maintenant que Christ est pleinement révélé dans le Nouveau Testament, il est la clé de la connaissance. Notre cœur doit être touché en connaissant le Seigneur Jésus et en voyant Christ au travers de toutes les Écritures désormais. Et c'est touchant de voir comment le Seigneur Jésus est venu enseigner dans ce monde, comme l'homme parfait, comme le Fils de l'homme. Il est là, si nous voyons dans les Évangiles, le voilà ému de compassion devant un peuple qui est comme des brebis sans berger. Et il est dit, et il commença à leur enseigner beaucoup de choses. C'est touchant. Le Seigneur Jésus, parce qu'il est ému de compassion, parce qu'il détecte le besoin dans les cœurs, eh bien, il enseigne. Voilà la qualité de celui qui nous enseigne. Il veut répondre à un besoin précis. Et il y en a tellement des besoins. Ce n'est pas une question de forme, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de cœur. Et le Seigneur nous enseigne avec son cœur. Et combien de fois le Seigneur n'a pas enseigné ses disciples en chemin, en leur parlant au cœur, en leur parlant de ce qui allait lui arriver. Jusque-là, ils ne comprenaient pas. Ils avaient leur pensée aux choses du monde. Mais après, ensuite, une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, alors tout est clair. Tout est clair. Tout est au sujet du Seigneur Jésus, ce qu'il nous enseignait.
Et on voit, on peut considérer aussi cette révélation du Saint-Esprit dans ses disciples que le Seigneur a appelés pour être apôtres, donc pour les envoyer prêcher, pour les envoyer à travers le monde pour parler de lui. Et il nous est dit, il venait de cette région du nord d'Israël, la Galilée, qui était peu considérée, parce que c'était Jérusalem et les environs qui avaient cette ville avec son importance et cette construction, le temple qui se trouvait là au milieu de cette ville. Et donc, il y a cette considération à un certain moment des responsables en disant « Mais que sont ces hommes illettrés qui viennent parler de choses aussi merveilleuses ?» Eh bien voilà, justement, ces personnes qui étaient considérées comme peu instruites, sont venus dans ces livres que sont les Actes des Apôtres et les Épîtres qui suivent, donner une explication de tout ce que les prophètes eux-mêmes avaient reçu précédemment, et cet enseignement du Seigneur Jésus qui nous est donc expliqué par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui leur a donné ces choses. Ce n'est donc pas une intelligence humaine, mais c'est l'action du Saint-Esprit en eux-mêmes qui a permis que nous puissions recevoir aujourd'hui tant d'enseignements et de voir la gloire du Seigneur Jésus. C'est vraiment un point important dans cet enseignement, c'est que nous pouvons, à travers les yeux de la foi, c'est de voir la personne du Seigneur Jésus. Il a été sur la terre, les disciples l'ont vu physiquement, mais nous, nous le voyons maintenant glorieux dans le ciel.
Les disciples, sur le chemin d'Emmaüs, avaient dit « Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait de lui au travers des Écritures ?» Et voyons encore le Seigneur Jésus dans un aspect touchant de la façon dont lui l'enseigne. Le Seigneur Jésus a toujours utilisé un enseignement très, très concret. Par exemple, il utilisait des réalités de la vie de tous les jours pour faire comprendre des vérités spirituelles très profondes, des images, des événements qui se passaient. Par exemple, le Seigneur Jésus regarde le temple, il voit des gens qui jettent de l'argent dans le trésor du temple, et il voit une veuve qui jette 2 pites. Que fait le Seigneur Jésus? Il utilise cet événement, qui normalement passe inaperçu. Il appelle ses disciples, il dit « Regardez ». Et il leur enseigne une chose très importante et très profonde. Elle a donné plus que tous les autres. Cela nous enseigne. Ce n'est pas un enseignement d'homme, c'est l'enseignement qui nous vient directement de Dieu. Et nous avons le privilège d'être enseignés directement de Dieu, et aujourd'hui par l'Esprit et par les Écritures, sans intermédiaire. Dieu nous enseigne. Il nous enseigne quoi ? Il nous enseigne son point de vue à lui. Et cela devrait nous faire adopter son point de vue à lui. Il est tellement beau, il est merveilleux. Mais aussi, il faut se souvenir. Lorsque dans notre vie, il y a des événements qui se passent, eh bien, il faut apprendre. Et le Seigneur nous enseigne au travers de la parole, mais il faut s'en souvenir. Tiens, ce qui s'est passé aujourd'hui me rappelle un passage de la Bible, ou me rappelle un événement qui s'est passé même avec le Seigneur Jésus dans les évangiles. Allons le relire. Et cela nous enseignera pour la vie concrètement aujourd'hui. Alors donc, nous avons vu quelques aspects de la qualité, on va dire des qualités du Seigneur Jésus comme enseignant. Mais voyons quelques caractères, on va dire, généraux et véridiques pour tout ce que le Seigneur enseigne.
Mais on peut lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8. Et au verset 31. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » On peut voir dans ce passage que d'abord, ils ont cru au Seigneur Jésus, ils ont persévéré dans la parole, donc les choses qui étaient enseignées par le Seigneur, ils l'acceptaient, et donc ils étaient vraiment disciples du Seigneur, ils apprennent à connaître la vérité, donc à faire le choix entre ce qui est vrai et que d'autres choses sont annoncées, que l'homme peut essayer de dire que c'est vrai, mais par la parole, par l'esprit, nous comprenons qu'il y a la vérité qui est celle enseignée par le Seigneur Jésus. Et alors cette vérité vous affranchira. Donc elle vous donnera la possibilité de choisir le bon chemin, d'aller dans la bonne direction, de ne plus avoir nos pensées qui sont prises par des choses du monde, par des pratiques, par beaucoup de choses qui sont montrées comme n'étant plus cette vérité que le Seigneur Jésus nous apporte. Donc, nous sommes affranchis. C'est d'ailleurs une des grandes vérités de ce salut qui nous est donné, c'est l'affranchissement. C'est que cette nature qui ne connaissait pas le Seigneur Jésus, eh bien, nous en sommes maintenant libérés. Elle existe, elle est en nous, cette nature de par notre naissance, mais comme on l'a lu avec Nicodème, nous sommes nés de nouveau, et donc nous avons cette nouvelle vie, eh bien, elle est libre d'agir.
Oui, c'est un enseignement de la part du Seigneur qui nous libère de l'emprise de la chair. L'enseignement du Seigneur Jésus, il nous ouvre la vraie vie, la vie pour Dieu. Alors la vérité vous affranchira. Elle nous rend libres. Elle nous débarrasse de ce qui est faux. Et ce qui est faux nous accable, ou nous fait faire fausse route, nous fait perdre notre temps, notre énergie, peut-être notre âme, si on ne vient pas à la connaissance de la vérité. Mais la vérité, elle affranchit. Et l'enseignement que le Seigneur Jésus dit est vrai. Et il le dit en Jean chapitre 17, verset 17, « Ta parole est la vérité. » Et si nous lisons ce verset, Jean 17, verset 17, il est dit « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Et donc, cette parole qui est la vérité, elle n'est pas seulement affranchissante, elle ne va pas seulement affranchir, elle va aussi sanctifier. C'est par la parole qui est la vérité que les disciples sont sanctifiés, c'est-à-dire mis à part du monde. C'est-à-dire que cette parole, cet enseignement que le Seigneur nous donne, eh bien, il lave notre cœur. Il a un effet purifiant dans nos pensées. Voilà, nous entendons l'enseignement du Seigneur. Nous l'acceptons dans notre cœur. Eh bien, cela purifie notre cœur de tout ce qui est faux ou mauvais. C'est un effet sanctifiant. Et de l'abondance du cœur, la bouche parle, cela va forcément avoir des effets très concrets dans notre vie.
On peut ajouter encore comme qualité de cet enseignement, c'est qu'il est gratuit. On ne doit pas avoir des moyens humains pour apporter pour connaître le Seigneur Jésus et pour comprendre son enseignement. Alors, c'est peut-être un passage un peu plus difficile, mais dans l'Épître aux Romains au chapitre 3, et au verset 24, on peut d'ailleurs lire un peu avant, « Il n'y a pas de différence, car tous sont péchés n'atteignent pas à la gloire de Dieu. » Ça, c'est l'homme naturel. « Étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang. » Voilà, le Seigneur Jésus s'est offert en sacrifice à la croix. Le sang a coulé de son péché. On parlait justement de tout ce qui est mauvais. Eh bien, toutes ces choses maintenant n'ont plus à agir sur nous si nous restons dans cette relation avec le Seigneur. Et en plus, nous avons cette position que Dieu ne nous voit plus comme un homme du monde, un homme pécheur, mais comme un racheté du Seigneur Jésus. Nous sommes justifiés gratuitement par la rédemption. Le Seigneur nous a rachetés et nous avons maintenant bien cette position devant Dieu et tout cela se fait gratuitement. C'est le Seigneur qui s'est donné entièrement et ce que nous pouvons faire, c'est lui rendre justement quelque chose de cet amour qu'il nous a donné, dont il nous a aimés.
Tout est gratuit pour nous. Lui, il a payé cher pour que tout soit gratuit pour nous. Le pardon des péchés, la vie éternelle, une place dans le ciel, mais encore sur cette terre déjà, tout est gratuit et il nous donne tout gratuitement. Il nous donne aussi cet enseignement de la part de Dieu, cette saine doctrine. Le mot doctrine, ça fait peut-être peur, mais ça ne devrait pas. Pour le nouvel homme, ça ne fait pas peur. C'est ce que Dieu désire pour notre vie ici-bas, pour notre comportement ici-bas. C'est la saine doctrine. L'enseignement de la parole de Dieu. C'est ce qui est bon pour glorifier Dieu et ce qui est bon pour notre bien-être à nous. C'est gratuit. Le Seigneur Jésus donne tout en abondance, gratuitement. C'est très important. Ça nous rapproche aussi de la pensée qu'on a déjà émise tout à l'heure. Je reviens en acte 4 et au verset 13. Et voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, et s'étant aperçu qu'ils étaient des hommes illettrés du commun, il s'en étonnait, et il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. C'étaient des gens illettrés et du commun. Ils n'avaient pas d'argent pour recevoir une éducation dans une université, dans une école de théologie. Non, le Seigneur les a enseignés directement. Marchant avec eux dans le chemin pendant ces 3 années, jour après jour, Ils ont mangé ensemble, ils ont marché ensemble, ils ont dormi ensemble. Ils ont été témoins de tout ce que le Seigneur avait fait, avait dit. Et voilà, on les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. C'était des gens illettrés. Et pourtant, c'est eux qui vont nous transmettre l'enseignement, en tout cas en partie, de ce que le Seigneur avait fait et de ce qu'il avait dit durant sa vie. Et eux, qui ont reçu cet enseignement gratuit, vont le transmettre gratuitement. Ils disent, lorsqu'ils arrivent au temple à Jérusalem, à ce pauvre homme qui est là, mendiant devant la porte parce qu'il est handicapé, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et il parle au nom du Seigneur Jésus. C'est un sain enseignement. C'est-à-dire que la vérité, elle est saine. Elle fait du bien à l'âme. L'enseignement du Seigneur Jésus, il fait du bien à l'âme. On a dit tout à l'heure, donc il est gratuit. Et pourtant, c'est un enseignement qui enrichit. Dans le monde, on peut très bien dépenser beaucoup d'argent pour recevoir un enseignement des hommes. Ça coûte souvent très cher. Et si nous lisons dans Colossiens, au chapitre 3, et au verset 8, il est dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines déceptions selon l'enseignement des hommes, selon les éléments du monde » et non selon Christ. » Là, il y a une mise en garde. Faites attention, vous risquez de payer cher un enseignement des hommes, selon les éléments des hommes. Et pourtant, cet enseignement, eh bien, il fait de nous des proies. C'est-à-dire, si nous lisons à la note, eh bien, nous sommes dépouillés. Donc, au lieu de recevoir, nous devons payer déjà, pour recevoir cet enseignement. Et cet enseignement, spirituellement, va nous dépouiller, va nous appauvrir. Peut-être sous une belle apparence, mais le résultat sera que, si ce n'est pas selon Christ, l'enseignement va nous appauvrir, si nous nous y attachons plus qu'à Christ. Mais l'enseignement du Seigneur, lui, il enrichit. Il est gratuit et il enrichit, spirituellement.
Et donc, par là même, nous sommes enrichis des choses spirituelles, des choses célestes, et donc les choses de la terre ont moins d'importance. Nous ne recherchons pas une richesse terrestre. Et là aussi, on reçoit des enseignements par la parole, parce que l'apôtre Paul lui-même était un exemple. Et on voit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20, et au verset 34, « Vous savez vous-même que ces mains ont été employées pour mes besoins et pour les personnes qui étaient avec moi. » Donc l'apôtre Paul prenait soin de travailler et donc il pouvait ainsi entretenir, par les besoins minimums, je vais dire, de nourriture et de vêtements, ceux qui étaient avec lui, lui-même, et ceux qui étaient avec lui. « Je vous ai montré en toute chose, qu'en travaillant ainsi, il nous faut secourir les faibles. » Donc non seulement ce travail, parce que l'apôtre voyageait continuellement, donc il n'avait pas de position fixe, c'était un travail qu'il pouvait faire à divers endroits, qui lui permettait d'aider non seulement ceux qui étaient avec lui, mais aussi de secourir les faibles. Et il ajoute, « Et nous souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui lui-même a dit, il est plus heureux de donner que de recevoir. » Voilà donc cet enseignement qui nous montre aussi que voilà, nous sommes dans la joie de pouvoir faire don de cette grâce par l'enseignement, de faire passer ce message d'amour autour de nous et peut-être aussi de pouvoir aider, même parfois matériellement, les faibles et ceux qui dans ce monde sont parfois dans la misère.
On peut le répéter, l'enseignement de Dieu, l'enseignement du Seigneur Jésus, a toujours des implications pratiques. Nous n'étudions pas la Bible et la vie du Seigneur Jésus juste pour augmenter les connaissances intellectuelles. Cela va nous changer, va transformer notre être intérieur. Dans ce verset de Actes 20, 35, il dit « souvenir des paroles du Seigneur ». Il faut s'en souvenir. On peut avoir appris quelque chose et puis l'oublier au cours des années qui passent. Mais non, il faut se souvenir des paroles du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il est plus heureux de donner que de recevoir. Alors ça, c'est un enseignement très pratique. Et on pourrait dire, il est plus béni de donner que de recevoir. Et dans les Proverbes, nous lisons au chapitre 10 et au verset 22, « La bénédiction de l'Éternel est ce qui enrichit. » Voilà, il faut vraiment faire la part des choses. Quelles sont les véritables richesses que nous recherchons sur la terre en tant que disciples du Seigneur ? N'oublions pas que le Seigneur Jésus était celui qui n'avait pas d'argent. Il était riche, puisqu'il est Dieu, tout lui appartient. Il est venu sur cette terre sans argent. Lorsqu'il fallait payer un impôt, il a demandé à Pierre d'aller pêcher un poisson pour y trouver une pièce. Lorsque les pharisiens et des hérodiens viennent à lui pour lui poser une question piège quant aux impôts qu'il faut payer aux Romains ou pas, il dit « Montrez-moi une pièce ». Il n'en avait pas sur lui. Il s'est appauvri. Il a vécu dans la pauvreté, il nous est dit dans les Corinthiens, je crois, il a vécu dans la pauvreté pour nous enrichir. 1 Corinthiens 1, verset 4, « Je rends toujours grâce à mon Dieu pour vous, à cause de la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus, de ce qu'en toute chose vous avez été enrichi en lui, en toute parole et toute connaissance. » En toute parole. Chaque parole du Seigneur Jésus est un enrichissement. Chaque étape ou chaque progrès dans la connaissance du Seigneur Jésus est un enrichissement spirituel pour chacun d'entre nous.
Donc nous voilà enrichis ici, pendant notre vie ici-bas, mais déjà le Seigneur Jésus, par son œuvre, et Dieu lui-même, dans sa pensée de grâce et d'amour, nous a déjà acquis quelque chose d'encore bien plus grand et d'encore bien plus merveilleux. Et nous lisons dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, et on peut lire à partir de verset 3, c'est surtout le verset 4 qui nous intéresse, mais 1 Pierre 1, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Alors voilà, pour un héritage incorruptible, sans souillure, immarcessible, conservé dans les cieux pour vous ou pour nous. Voilà donc ce qui est déjà préparé là-haut dans le ciel. Un héritage, alors on peut espérer des héritages sur la terre, mais celui-ci, c'est un héritage merveilleux parce qu'il est incorruptible. Donc voilà, on ne peut pas venir apporter quelque chose de négatif sur cet héritage. Il est sans souillure. Nous sommes là dans la pureté, dans la sainteté de la présence de Dieu. Il est immarcessible, c'est-à-dire qu'il ne se flétrit pas, il ne vieillit pas avec le temps, il ne change pas. Et il est conservé dans les cieux. Donc il est préparé à l'avance et il est conservé. Quand nous allons le recevoir, cet héritage, eh bien, ce que Dieu a préparé sera quelque chose de glorieux qui sera là pour nous-mêmes. Alors voilà cet enrichissement, jusqu'où est-ce qu'il va ? Parce qu'on peut progresser sur la terre pour dire on va transmettre quelque chose à nos enfants. Mais là, Dieu n'a pas besoin de ce que nous pourrions posséder ou de ce que nous sommes. Il a déjà prévu justement cette demeure là-haut dans le ciel, par cet héritage dont nous venons voir les qualités qui sont sans commune mesure avec ce que l'on peut trouver sur la terre.
Ce qui est touchant également, c'est que le Seigneur Jésus désire avoir des disciples qui l'écoutent. Le Seigneur Jésus désire enseigner des âmes qu'il a rachetées. et c'est notre privilège d'être les apprentis du Seigneur Jésus.
On peut lire, je pense que c'est dans l'évangile de Jean.
Oui, dans l'évangile de Jean, par exemple, au chapitre 15, on voit là comme le désir du cœur du Seigneur quand il dit au verset 16 « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. » C'est le désir du Seigneur Jésus. Il nous a choisis pour être ses disciples. Il nous a établis sur la base, évidemment, de son œuvre à la croix. Nous lui sommes tellement chers qu'il a donné sa vie pour nous à la croix. Nous lui sommes tellement chers qu'il aimerait que nous suivions son enseignement pour notre vie ici-bas, que nous apprenions à le connaître parce que ça lui rapporte de la gloire et il sait que c'est pour notre bien. Tout ce qu'il nous enseigne, il nous l'enseigne pour notre bien et notre croissance spirituelle, pour que nous portions du fruit. C'est ce qu'il est dit un peu plus loin dans le verset. Hein. Il dit « Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » Et le fruit va demeurer jusqu'en vie éternelle. Du fruit, ça fait plaisir. Du fruit, un arbre qui porte du fruit. Quel plaisir, quel bonheur. Eh bien, le disciple qui écoute l'enseignement de son Seigneur, qui le met en pratique, qui l'accepte dans son cœur, cet enseignement, qui se soumet à cet enseignement, qui le pratique, eh bien, il portera du fruit pour le Seigneur.
Et c'est en lisant le verset 8 que l'expression est bien donnée. « En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. »
Voilà, un vrai disciple, eh bien, il porte du fruit. Le fruit, évidemment, de l'Esprit, qu'on trouve en Galates 5. Le fruit de cet Esprit Saint qui est en nous et qui nous transforme en l'image de celui que nous apprenons à connaître. Et alors, s'il y a cette transformation en nous, eh bien, ça va aussi se répandre autour de nous. Et nous pourrions lire encore un passage en Matthieu 28, voir véritablement le désir du Seigneur Jésus alors qu'il va quitter la scène de ce monde. Il parle à ses disciples et voici parmi ses dernières paroles, il dit « Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. »
À bientôt pour d'autres sujets bibliques.